Voilà, donc là il est... Oui, il va être 7h, Christophe, vous voyez.
Oui, c'est tôt.
Donc, parce que vous n'êtes pas journaliste de formation, mais vous pouvez apporter des lumières quand même.
Ah bah oui, moi je peux faire des trucs.
Parce que vous êtes à la fois, il y a une sorte de candide, oui. il y a une curiosité, vous avez un œil.
J'ai un œil.
Donc tout à l'heure, par exemple, après le journal, on peut tout à fait faire un truc, on serait avec Thomas Baumgartner et vous pourrez intervenir sur des sujets. Par exemple, vous auriez envie de parler de quoi tout à l'heure?
Moi, j'ai envie de savoir s'il faut se réjouir ou avoir peur du retour de l'inflation, par exemple.
Non, mais peut-être rester dans vos...
C'est-à-dire?
Mais non, mais parce que c'est un article dans le journal, ça?
Oui, c'est...
Non, mais parce que c'est peut-être un petit peu spécialisé. Prenez plus large, prenez peut-être le temps, est-ce qu'il va faire beau, vous voyez?
Kim Kardashian?
Bon, allez. Radio Nova. Le journal, mais de Marie Bonisseau, puisque je rappelle que Thierry Paret est en train de skier aux frais de la princesse, bien sûr, avec des skis Nova. Bonjour Marie, on est très heureux de vous avoir.
Bonjour, moi aussi. Des excuses et on continue. Conférence de presse de François Fillon hier après-midi, ultra suivie. François Fillon qui maintient sa candidature. Oui, Pénélope a été ma collaboratrice pendant 15 ans. Ce n'était pas un emploi fictif. Assure le candidat des Républicains qui a publié ses revenus hier soir. Tout est légal, mais ça suscite la défiance des Français. C'était une erreur et je m'en excuse. Alors, est-ce que la campagne de Fillon est repartie? Chez les Républicains, hier soir, les Fillon démission avaient, semble-t-il, été mis en sourdine, voire éteint. Tout le monde est clairement derrière lui, assurait son porte-parole Thierry Solaire. On verra ce qu'il en sera aujourd'hui à la réunion parlementaire. Justice pour Théo. Les cris des quelques 600 manifestants d'Aulnay-sous-Bois ont encore résonné hier. La cité des 3000 est toujours sous tension. Théo, jeune homme de 22 ans, raconte son interpellation dans un enregistrement. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur lesinrock.com. Il maintient les accusations de viol et décrit un acharnement policier. Je rappelle que l'un des agresseurs présumés est mis en examen pour viol, les trois autres pour violence en réunion. Aux États-Unis, Donald Trump, toujours déterminé à faire passer son fameux décret anti-immigration, toujours bloqué par un juge fédéral. Ce décret relève de la seule autorité de la Maison-Blanche, plaide le ministère de la Justice dans son recours devant la Cour d'appel fédérale. En attendant l'audience demain après-midi, les ressortissants des 7 pays visés circulent librement. À noter que près d'une centaine d'entreprises de la Silicon Valley ont déposé une lettre de soutien à la procédure contre ce décret. Hier, les députés israéliens ont voté pour la légalisation des colonies en Cisjordanie, les territoires occupés. Un texte passé en première lecture qui concerne donc ces communautés juives établies depuis près de 20 ans sans autorisation officielle. C'est la première fois qu'une loi est votée pour des terres situées en dehors du territoire israélien. Le rapport est titré « Abattoir humain ». Il est signé Amnesty International qui dénonce la politique d'extermination du régime syrien à Saïdnaya, c'est une prison près de Damas. 13 000 personnes y auraient été pendues entre 2011 et 2015 dans le secret le plus total. La plupart des civils considérés comme opposants au régime de Bachar el-Assad. On le sait déjà, le niveau de vie a une influence sur la santé, mais là c'est chiffré. Près de 15 000 cancers pourraient être évités en France chaque année si on améliorait les conditions de vie des plus défavorisés. Cas le plus évitable, c'est le cancer des poumons, détaille cette analyse, la première du genre, publiée par l'Agence sanitaire Santé publique France. Et puis, pour finir, joyeux anniversaire Maastricht. Ça paraît pas hyper marrant comme fête, mais sachez que le traité fondateur de l'Union européenne a 25 ans aujourd'hui. Ce texte devenu la bête noire des eurosceptiques sera célébré en toute discrétion.
Bon, moi je vais aller me recoucher, hein, parce que si c'est pour entendre ça, il est 7h03 du matin. Je veux dire, vous avez réussi à rajouter du cancer. Vous n'avez pas un peu de Trump, non? Vous n'avez pas pour... Hein,
si, j'ai un tout petit peu parlé de Trump qui est bloqué, pour l'instant.
Oui, mais vous pouvez être pire, surtout. François, vous venez d'arriver, là, François. Vous arrivez de Champigny maintenant, à moto?
Oui.
Mais moi, je m'inquiète quand vous prenez la moto, quand il pleut.
Ah oui, puis là, vous avez raison, parce que ça pleut de rue.
Alors, je notais, Christophe, tu vois, ça, c'est une façon détournée de parler de la météo.
L'automobiliste est très remonté.
L'automobiliste est remonté.
L'automobiliste.
Ah oui, pardon, parce que toutes les consonnes ne sont pas réveillées ce matin, le T est encore ensommeillé.
Donc l'automobiliste île-de-francien-francilien est très remonté.
Alors François, j'ai des questions à ce sujet. Vous pensez qu'il est remonté de bon droit? Est-ce que c'est la pluie l'énerve? Est-ce qu'il a écouté les infos de Marie Bonisseau et se dit ce matin j'ai pas envie d'y aller?
Alors ce serait plutôt la deuxième solution. Par exemple, on n'est jamais remonté de bon droit, il ne faut pas être remonté. Churchill disait « Don't be remonted, it's no good for
the... » Si Churchill l'a dit, mais il disait « Ne faites pas de sport non plus, l'un dans l'autre, on s'y retrouve ». Alors est-ce que c'est la faute de Marie Bonisseau si ça se passe mal dans le monde, ou est-ce qu'elle n'est que le porte-voix d'une réalité? Est-ce que le réel existe?
Non, elle n'est que l'excroissance caduque d'un protoplasma virtuellement immortel.
Et ben voilà, à tout de suite.
Edouard Baer.
Oh mon Dieu, il me caresse l'oreille, ce con.
Il est assez juste ce morceau, Armel, vous voyez, parce que on est dans le cadre d'un réveil, mais on n'est pas dans le réveil coup de pied au cul, je te tire l'oreille. On est vraiment encore en apesanteur au-dessus de ses pantoufles.
On ne sait pas si on doit se réveiller vraiment, d'ailleurs, en l'entendant ce morceau.
Ah,
on hésite.
Vous croyez ? C'est ce qu'on accuse cette émission d'inciter les gens à aller se recoucher.
Et pourquoi pas ?
Ce qui n'est pas le but, bien sûr que non. Il y a pas de but d'ailleurs, hein, je crois. Il y a pas de but, il y a pas de cause, il y a pas d'effet.
Non.
T'as des problèmes. Alors, la fine fleur des gens qui s'informent sont là autour de cette table ce matin. Des gens qui ont entendu la radio tôt, des gens qui ont été sur le net dans la nuit, des gens qui ont lu les journaux, des gens préoccupés, des gens dans leur époque.
Bon, moi, Edouard, j'ai une confession à vous faire. J'ai nourri dans la nuit des soupçons à votre endroit. Je me suis demandé si vous n'aviez pas utilisé votre fils comme assistant parlementaire. Et puis, au petit matin, j'ai réalisé à la fois que vous n'aviez pas de fils et que vous n'aviez jamais été parlementaire. Ce qui vous disculpe à mes yeux en grande partie. Quoi.
Bon, déjà de
c'est
ce point-là.
C'est pas nettoyé,
non,
mais...
c'est pas bébé. Très bien. Thomas Baumgartner, oui. Vous avez. Qu'est-ce qui vous a frappé ce matin ?
Oui, personne, mais deux.
On joue, je rappelle, on joue sur les deux sens du mot frappé, hein, au sens propre, je te frappe, et je suis frappé au sens moral ou intellectuel. Bravo.
Voilà. Est-ce qu'on peut vraiment aller plus loin ?
Oui, parce que je vous vois, vous êtes sur la page sport,
oui,
et ça arrive assez rarement, et ça me fait plaisir.
Oui, parce qu'il y a une interview de Marcel Hirscher qui est le meilleur skieur de sa génération. C'est toujours intéressant d'avoir la parole des virtuoses, des grands champions. Lui, il a gagné 5 fois le globe de cristal, le récompensant le meilleur skieur de discipline, de toutes disciplines confondues. Donc voilà, c'est rare. Donc on attend une parole un peu dense, voilà, d'un grand champion. Première question, pourquoi skiez-vous ? Donc on se dit,
vous
voilà,
allez
il
pas
va
vous
partir.
Moquer, je sens que vous êtes parti pour dire du mal.
Non, il répond parce que mes parents avaient une école de ski. Donc bon, voilà, pourquoi skiez-vous ? Parce que mes parents avaient une école de ski. La force mentale ne se travaille pas selon vous ? Point d'interrogation. Réponse non, elle ne se travaille pas. Voilà.
Ah d'accord. Il y a
donc,
pas.
Donc, il ne développe pas vraiment. Et où est le plaisir ? C'est la communion avec la nature, être en phase avec la nature à 130 km/h. Voilà, une petite note d'espoir. C'est pas de la poésie, mais voilà, il y a quelque chose.
Vous voyez quand même.
Oui, voilà. Mais quand même, je pense qu'une des moralités, c'est qu'il faut pas embêter les virtuoses.
Vous en attendiez beaucoup de Marcel Hirscher.
J'ai
senti une attente. Vous avez besoin d'un guide, spirituel.
Pourquoi pas Marcel ?
Ce qui contrarie Thomas, Edouard, c'est que Marcel Hirscher n'a pas livré les clés, le secret de sa réussite.
Voilà. C'est sûr.
Voilà. Et Thomas se dit, si j'avais ce petit secret, cette petite clé, je serais aujourd'hui globe de cristallisé 5 fois, 6 fois.
Parce que peut-être que Thomas a, et vous avez sans doute aussi François, le goût de la transmission. C'est-à-dire ce que je tiens d'un maître, moi-même l'amener à un élève. Et c'est très beau.
Voilà. Et Marcel ne le fait pas.
Non, vous pouvez essayer de parler faux comme moi aussi. Et Marcel ne le fait pas.
Oui.
Très bien, il est temps pour Christophe Méné de s'exprimer. Il est en stage à Radio Nova depuis 5 ans. Il est enfin prêt à nous informer, à nous divertir, à aller plus loin. Christophe Méné, qu'est-ce que tu as tiré ? Je te tutoie parce que...
Eh ben vas-y.
Eh ben non, c'est pas Yoko. François,
non, ben là tu pousses un peu loin le bouchon, mon Christophe.
Compris, il n'y a pas de symétrie.
Pourquoi ? Bah, tu me tutoies.
Non, mais non, on rêve. Non.
Parce que t'es plus vieux.
Non, c'est pas la question. Je suis peut-être plus. Le mot vieux n'est peut-être pas juste.
Non.
Plus sage, plus mannequin. Alors, vas-y, allez-y, vas-y, Christophe.
Donc, moi, j'ai relevé une information ce matin dans le Parisien. Il y a des soldes, Edouard. Il y a des soldes, c'est chez Mobeco. Voilà. Des prix sacrifiés jamais vus.
D'accord.
Sur les matelas, les sommiers, canapés, salon, relax, convertible, clic-clac. Clic-clac.
Christophe, voilà. Est-ce qu'on est sur tous les magasins Mobeco au niveau national ?
Alors, non. Justement, il y a 3 magasins. Il y en a un avenue de Malakoff.
D'accord.
Il y en a un autre avenue d'Italie.
D'accord.
Et il y en a un autre rue de Belleville.
Si ces soldes sont aussi remarquables, est-ce parce qu'elles atteignent des niveaux jamais vus, à savoir du moins 30, moins 40, moins 50%, voire plus si entente ?
Oui, c'est ça.
Très bien. Est-ce que tu touches chez Mobeco ?
Non.
J'ai une question, Edouard. Est-ce que ces soldes sont à ce point intéressants que quelqu'un qui n'a pas besoin d'un clic-clac, par exemple, devrait quand même en acheter un tellement que c'est intéressant,
tellement
que c'est une bonne affaire, quoi.
Oui, moi je trouve. On peut avoir des clic-clacs chez soi.
C'est ce que je voulais vous faire dire, Christophe.
Eh bien, merci, François.
Pourquoi ne pas avoir une 20aine de clic-clacs quand ils sont bon marché ? Bah, il faut y aller, quoi.
Surtout qu'il y a en plus, il y a des très bonnes marques de matelas.
Edouard s'est endormi.
Il y a Tempur, il y a Dunlopillo.
Si vous êtes endormi,
il y a Epédal.
Je vous dis franchement.
Bultex.
Je vous dis franchement, je me fais chier.
Ah oui.
Ah, je m'ennuie. Je, Je vous le dis, on se dit, c'est pas.
Vous avez jamais été très Mobeco, faut dire.
Non, c'est pas tellement question, c'est qu'il y a des gens qui attendent 30 années de coup pour s'ennuyer. Moi, c'est 10 minutes de Christophe Méné sur Mobeco. C'est trop.
Locataire gérant de station-service en région parisienne et France aux frontières.
Nicolas, venez près du micro. Nicolas, vous ne connaissez pas sa voix parce que il nous filme le matin, il filme du petit extrait de l'émission afin de les mettre sur les réseaux sociaux afin que des followers like ou éventuellement des fansous dislike. Hein. Nicolas, vous avez participé au truc à l'hologramme de Mélenchon.
Absolument. Hein.
Dis donc, alors, petit gauchiste, content?
Le week-end, je
qu'est-ce
vous ai
que
fait
vous
une petite
fidélité. Je rappelle que Mélenchon, ce week-end, il est apparu à la fois à Lyon et à Paris. Donc, on voit, il fait un moment un geste, il claque des doigts et ça marche. Il apparaît dans une autre ville. Comment vous avez fait ça, Nicolas? On est content.
Bonjour à tous. Bah, voilà, c'était un dispositif un peu compliqué qui ressemblait à un duplex habituel, c'est-à-dire une équipe de réalisation à Lyon, une équipe de réalisation à Paris. Mais la restitution de l'image était quand même assez bluffante dans le sens où un duplex, ça serait diffuser des images dans les écrans et au fond, les gens qui auraient été à Paris auraient vu un meeting comme s'ils regardaient la télévision. Là, la restitution de l'image était tellement fidèle que l'illusion était assez parfaite. On avait vraiment l'impression que Jean-Luc Mélenchon était à Aubervilliers avec nous.
La sensation de relief.
Et les 4000 personnes qui étaient dans la salle se sont levées exactement de la même manière que s'ils avaient été à Lyon. Donc c'était assez bluffant et assez fort. Il faut bien voir qu'un meeting, c'est quand même une espèce d'énorme... ça ne s'appelle pas meeting pour rien, hein, c'est vraiment une rencontre qui est très émotionnelle. Donc le principe, ce n'est pas de faire une émission de télévision, c'est vraiment de... On va dire de
sentir la présence de l'autre. Et ça a marché.
Et ça marchait incroyablement. Ouais, c'était fou. C'était vraiment.
C'était gênant, c'était angoissant ou pas?
C'est moi qui Non, parce que je crois qu'on a oublié le dispositif au bout de 5 minutes, c'est-à-dire qu'il était vraiment là. Et d'ailleurs, tous les gens qui étaient dans la salle ont concédé que c'était assez incroyable. Et c'était même troublant parce que les images que moi je tournais. En fait, à Paris, était diffusé dans les écrans. Et je pense que les gens ne savaient pas trop si c'était les images de Lyon ou les images de Paris.
Dans laquelle des deux villes il était. Et en fait, il était à Lyon.
Il était à Lyon.
Mais alors, c'est si on lance, par exemple, des fruits et légumes qu'on s'aperçoit de la différence, ça passe à travers l'hologramme, alors que ça ne passe pas à travers Mélenchon.
Non, on aurait pu absolument envoyer n'importe quoi dans l'image, puisque c'est une caméra qu'il filmait dans une zone très contrainte. Pour lui, je pense que c'est un exercice assez difficile, parce que c'est un personnage très mobile habituellement. Là, il avait une zone extrêmement contrainte dans laquelle il ne devait pas sortir pour que nous, on ne le perde pas en restitution d'image à Aubervilliers. Donc je pense pour lui, c'est un exercice très difficile, très fatigant et en même temps très électrisant parce qu'au fond, on a pu mélanger les deux flux d'images, les agréger pour les réseaux sociaux derrière. Donc je pense que c'était... Il y avait une très grosse énergie qui se dégageait de ces images.
Alors le problème, je ne sais pas si c'est un avantage, fait qu'on a beaucoup moins parlé pour une fois du contenu, mais beaucoup plus de la virtuosité technique. Tout à coup, le côté magique a fasciné les gens. Est-ce que vous croyez que ça en fait le candidat de la modernité ou est-ce que ça discrédite un peu le discours les uns les autres? Plus personne, là j'entends plus personne.
Moi je trouve que sur le fond, je pense que c'était tout à fait audible. Évidemment, le problème, c'est que comme c'était une première mondiale en direct comme ça, les gens se sont restés un peu bloqués sur le procédé technique. Mais au fond, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est l'idée de se dédoubler. Un discours politique, sachant qu'on a, on va dire, une douzaine de dimanches d'ici le premier tour de l'élection présidentielle, le fait de pouvoir additionner un certain nombre de salles avec une restitution émotionnelle qui est équivalente d'une salle à l'autre, ça change beaucoup de choses quand même. Hein. Après, en dépit du contenu et en dépit des choses, les hommes politiques aujourd'hui en campagne, leur but, c'est évidemment de toucher le plus grand nombre.
Mais je ne voudrais pas faire mon lacanien, mais se dédoubler, ce n'est pas une chose très positive. Hein. Un homme politique qui est donc double maintenant. Voilà. Il y a un double Mélenchon.
Je comprends ce que vous voulez dire.
Il y a quelque chose en moi qui résiste un peu, qui traîne les pieds. Je vois bien le gadget, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose de très humain, profond, sincère, droit, vrai dans ce type de démonstration.
Mais je sais que ça vous fait honneur, cette franchise. François, il y a un mot de Pénélope Fillon sur vous, qui est très beau à liser. François Rolland pourra toujours compter sur lui pour dire qui il est. Et à travers son langage, se dévoiler un petit peu. C'est ce que dit Pénélope sur vous. Charlène, vous nous avez apporté des petits sons ce matin. Parce que, autant il est difficile de déceler lequel Mélenchon est le vrai, celui de Lyon et de Paris. Mais nous, on va voir déjà notre sagacité, notre façon de reconnaître des sons. Hein. Qu'est-ce que vous nous avez apporté ce matin, Charlène?
Eh bien, on va les écouter dans un instant, ces petits sons.
Des petits sons pour que l'oreille de l'auditeur soit aguerrie.
Pour affûter l'oreille.
Donc, de bon matin, sachez reconnaître son ami et son ennemi. Avec un petit jingle.
C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit?
Tout le monde joue chez soi. Non mais oh. Ouais. Alors premier son.
C'est désagréable.
Un dentiste très âgé qui racle une molaire après 80 ans de service?
Oui.
Non, c'est pas vrai.
Si, c'est ça.
Oui.
Je connais pas l'âge du dentiste, en vrai.
Ah, c'est un truc de dentiste, vraiment?
Vous avez eu les réponses avant,
Edouard? Non, je suis extrêmement brillant.
C'est horrible.
Ah oui, c'est horrible, maintenant qu'on sait que c'est ça.
Ouais. Okay. Ok, deuxième son.
C'est un cochon coincé dans des toilettes? Il y a du vent qui s'engouffre?
Ouais, c'est du vent, on dirait.
Vous n'êtes pas obligé de trouver, vous avez le droit de chercher, hein, les amis.
Oui, non, mais là, on cherche.
Un réacteur, on dirait qu'il y a une... Est-ce qu'il y a une combustion?
Pas vraiment.
Continuons, quand tu réécoutons, Armel, s'il vous plaît. Armel, vous voyez pas...
Un truc dans l'espace, peut-être, je sais pas. Un photon grossi mille fois.
Ah oui, c'est les ondes radio qu'on reçoit depuis le fond de l'univers.
Alors, c'est presque ça. C'est les ondes radio de Saturne. Elle envoie à Cassidy. Bravo.
Récoutons une fois, maintenant qu'on le sait. Ah oui, je le savais.
Bah oui.
C'est un son reconstitué à partir des ondes radio.
C'est évident maintenant. Il est beau ce son.
Oui. Soyez pas trop sensible, Christophe.
Un dernier son.
Non, mais il est très beau.
De la pluie sur des tuiles de lauzes.
Un tambour qui joue sans personne pour en jouer. Un tambour qui joue tout seul.
Il y a de la pluie. Presque la réponse.
Il y a de la pluie, c'est sûr.
Il y a de la pluie.
Il y a de la pluie.
De la pluie sur la tôle ondulée.
De la pluie sur une
poubelle.
Sur le dos de quelqu'un qui serait fait remplacer son dos par une autre matière.
De la pluie, oui, par de la tôle ondulée. Sur de la mousse.
De la pluie sur ta
sœur.
Sur
une voiture.
Pardon. Sur une voiture, sur une Nissan. Mais qui cherche à placer de la pub partout. Sur une Nissan à moins 20% chez tout.
C'est beaucoup plus simple que ça.
Sur une vitre.
Oui.
Ah, voilà.
Sur une vitre horizontale ou verticale.
Sur un Velux.
Ah
oui, c'est pas sur une vitre alors. Hein.
Si vous l'aviez trouvé chez vous,
sur un Velux.
Si vous l'avez trouvé chez vous, vous recevez. Ah ben il y a pas de cadeau. Ben vous recevez nos félicitations.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque ces jeunes.
Oui, tout à fait.
C'est de la classe quand même, on a de la pub pour du pinard à 7h26 du matin. C'est quand même une émission de haut niveau. Ré bémol, fa dièse, ré bémol, fa dièse. Ré bémol, fa dièse, anana, j'enchaîne, double croche. Jack Souvent est à Lyon, dans les rues de Lyon ce matin. Jack ?
Oui, bonjour, on est à Villeurbanne en fait. Là, je viens d'ouvrir une boutique de pilon, de volaille. Voilà, de volaille, on vient d'ouvrir la volaille. Fraîche. Elle est très fraîche.
Mais vivante. Morte.
Voilà, le volet vient de s'ouvrir et le camion, il est télécommandé, je savais pas.
La remorque a été télécommandée.
La remorque, pardon. Voilà.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Alors, à Paris, il y a le grand marché où on s'approvisionne, c'est Rungis, là, le grossiste.
Rungis, oui.
Et à Lyon, c'est quoi alors?
Lyon, c'est Corba.
Et là, Corba, il y a un énorme marché.
Un énorme marché de viande et de volaille.
Donc, tous les matins, vous y allez?
Tous les mois. Moi, en fait, je suis grossiste, moi.
D'accord, c'est vous qui livrez le détaillant, là?
Voilà, oui. De temps en temps, il ne prend pas tout chez moi, mais de temps en temps, il me prend de la marchandise.
Et pourquoi il ne prend pas tout chez vous?
Ah ben après, c'est la concurrence. Hein. Moi, je suis un peu plus cher que les autres parce que je fais du produit halal, mais de l'abattage manuel.
D'accord, donc, c'est du halal manuel de qualité,
voilà,
alors?
De qualité, voilà. Parce que quand c'est du manuel, il faut payer le musulman qui égorge.
D'accord.
Et quand c'est du disque, eh ben, c'est une machine qui égorge et c'est moins cher.
Donc la machine... Donc, vous avez dit le musulman qui égorge, donc la machine qui serait sans religion, alors?
Ah ben ça, ils appellent ça du halal. Pour moi, c'est du halal industriel, quoi.
D'accord. Voilà. Et là, c'est vous-même qui avez le droit. Qui a le droit de tuer d'une façon halal? Il faut que ça soit contrôlé par qui, alors?
Ah ben après, il y a différents... Comment ça s'appelle? Contrôles.
Ouais.
Moi, je sais que moi, tous mes produits sont abattus manuellement. J'ai visité des abattoirs, Voilà.
Donc après, une fois... Vous êtes en confiance, la volaille est morte dans des conditions heureuses. Hein, vous m'avez dit volaille heureuse, volaille savoureuse.
Oui. Oui.
Ensuite, vous la portez chez le détaillant.
Et le détaillant, il la revend après.
Et il a des bons échos, il vous dit oui, vraiment, là...
Voilà.
Là, ça valait le... Mais on n'est pas sur des grosses marges. Vous n'êtes pas sur 60 euros de plus le poulet, quand même.
Ah, ben, j'aimerais bien ça. Là, je serais millionnaire. Là, je serais plus riche que Fillon, là.
Vous savez, Fillon, hein, il est pas... Moi, j'ai dîné chez lui. Il n'est pas si riche. Hein, c'est bon.
Ah, ben, attendez, le château dans la Sarthe.
Oh. Oui, alors, j'ai dormi là-bas. Alors, bon, le tennis, c'est bien. La salle à manger du personnel. Enfin, je vous raconterai. Mais dites-moi, là, c'est combien un poulet chez vous?
Non, mais là, moi, je suis grossiste. Donc, le détaillant...
C'est au kilo?
Ouais, je crois qu'il va...
Oui, mais d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites derrière le comptoir, en fait? Là, c'est pas chez vous, là?
Ben là, je viens voir mon client, quoi. Je viens le voir, je vais lui dire bonjour. Ben, c'est combien, le poulet? 3,50 le poulet.
Ah ben, c'est raisonnable.
Voilà.
Le contact, c'est important, vous...
Ah, moi, c'est très important pour mes clients. Il faut que je vienne les voir, si tout se passe bien, si la marchandise... Et conforme, voilà quoi.
Est-ce que ça incite à la boisson? Est-ce que le fait d'entretenir le contact incite à un petit coup à boire et rend alcoolique ou pas?
Moi je suis musulman, je bois pas d'alcool, donc déjà là...
Donc ça vous protège d'une part?
Ah ouais, je ne bois pas, je ne fume pas, je me drogue pas.
Mais si vous aviez l'impression, si tout à coup vous n'étiez pas dans la religion musulmane, est-ce que vous sentiez une incitation à la boisson?
Je sais pas, parce que vu que je suis pas dans ce cas-là, je peux pas vous répondre. J'ai pas la science infuse.
Voilà. Oui, mais vous arrivez à répondre quand même à mes questions qui ne sont pas d'un niveau, hein, parce que là, j'ai le commissariat aux questions face à moi qui me fait des têtes consternées.
Pourquoi?
Je sais pas, il trouve que mes questions, je sais pas, je vais être viré du centre français des questions à la radio le matin.
Non, mais moi, je suis très bon, surtout en politique. Faut me parler de politique.
C'est vrai, c'est vrai.
Ah ben oui, avec tous ces scandales-là.
Alors, qu'est-ce qui vous fait plaisir en politique et qu'est-ce qui vous énerve? Qu'est-ce qui vous réjouit en politique, par exemple?
Ben, ce qui me réjouit, c'est que François Fillon, qui s'était présenté comme un président qui serait sans casserole, c'est le patron de Top Chef, là, avec toutes les casseroles qu'il y a. C'est extraordinaire.
Bon, alors d'accord.
Là aussi, je voulais passer un message, s'il y a des gens qui entendent, aux jeunes à Paris, le black là qui s'est fait tabasser,
ouais,
et violé par 4 policiers.
Ouais.
Donc un big up à lui, et on le soutient.
Bon, bah,
ça,
écoute.
C'est inadmissible. Et j'espère que les policiers seront bien jugés, quoi.
Eh ben, on espère aussi.
Voilà.
Bon, bah, écoute,
bon, chef.
On a fait un bon panorama là. On a fait Fillon, okay, l'affaire de Lesoubois. On a tout fait. Je crois qu'on est, on est droit dans nos bottes.
Est-ce que Jack
François
souvent... Jack.
Oui, tout ça devant les poulets de Brest, les lapins, et puis les
Est-ce que vous pourrez nous rapporter ici une quarantaine de poulets?
Ouais, les cuisses, hein, ou entiers, ou des petites cuisses?
Des petites cuisses, hein.
Le client avec bonnet.
Mettez-nous 40 kilos de petites cuisses pour demain matin, hein.
Bon, ok. Merci, je rapporte ça.
Ouais.
À bientôt, Jack.
Salut à toutes.
Dîner chez François Fillon, François Rollin, ça a été pour vous un rituel hebdomadaire pendant des années?
Oui.
Dans la Sarthe, dans un...
Non mais Edouard, je vois où vous voulez en venir, mais il n'y a pas grand-chose à en dire, des dîners normaux, nous ne buvions pas que des grands crus.
Non mais vous sentiez quand même, vous me disiez, il y avait beaucoup, beaucoup d'accompagnement avec le plat principal, vous sentiez quelque chose quand même?
Oui, beaucoup, beaucoup de légumes, une grande variété de légumes, et pas toujours, pas mélangés en un seul plat. Ça nous avait frappé, c'est sûr. C'est-à-dire que sur un rôti de porc, on pouvait avoir de la pomme de terre sarladaise, à côté de la carotte confite, on pouvait avoir du chou-fleur, du brocoli, du poireau. Donc effectivement, on était très légumés.
Vous me disiez qu'il y avait aussi une indécence dans la qualité du plateau de fromage, puisque chaque fromage était
indécence,
mais... Si, vous me disiez que vous étiez choqué par le luxe du plateau de fromage chez les Fillon.
Oui, plateau d'ailleurs n'était plus le mot qui convient. C'était, vous voyez la superficie de cette table où vous officiez ce matin, Edouard.
6 mètres.
Le plateau de fromage, il était plus grand que ça.
Donc vous aviez quand même, ça vous avait un petit peu, vous aviez la puce à l'oreille quand même déjà.
Je m'étais dit, on mène un grand train, quoi.
Voilà. Vous sentiez quand même, vous me disiez, le dessert, il y avait du rab.
Oui, mais la convivialité nous faisait oublier tout ça. Donc le luxe n'était pas pesant, parce que François avait toujours une anecdote, y compris croustillante.
Je peux dire ce que vous m'aviez raconté le jour où Pénélope Fillon avait 2 montres à son bras gauche, deux montres, alors qu'une aurait suffi.
Oui, mais ça c'est pareil, un bon mot de François, puis ça on l'oubliait. Et puis Charles et Marie venaient. Enfin, je sais pas, cette atmosphère familiale faisait qu'on n'était pas un peu braqué comme vous l'êtes ce matin, sur ces histoires très matérielles, très vénales. Ah, combien qu'il a gagné, combien coûtent les fromages. On demandait qu'est-ce que les fromages vont apporter à notre cœur.
C'est très courageux ce que vous venez de faire, François. Le journal de 7h34.
Radio Nova.
Nous sommes tous clairement derrière François Fillon. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait entendre hier soir dans bouche du porte-parole du candidat de la droite. Après l'opération contrition devant 250 journalistes, des excuses aux Français pour avoir embauché sa femme Pénélope, mais un usage qui n'a rien d'illégal à marteler François Fillon. Celui qui s'est dit victime d'un lynchage médiatique a aussi publié sa déclaration de patrimoine et les revenus de sa femme sur son site internet. Il retrouvera les parlementaires de son camp en fin de matinée, réunion prévue à l'Assemblée. Justice pour Théo, les cris des quelques 600 manifestants d'Aulnay-sous-Bois ont encore résonné hier dans une marche de soutien aux jeunes de la cité des 3000 victimes d'une agression policière. Le témoignage de Théo, vous pouvez le retrouver sur lesunroc.com. Il maintient les accusations de viol, décrit un acharnement policier. Je rappelle que l'un de ses agresseurs présumés mis en examen pour viol, les trois autres pour violence en réunion. Aux États-Unis, Donald Trump est toujours déterminé à faire passer son décret anti-immigration qui est bloqué par un juge fédéral. Ce décret relève de la seule autorité de la Maison-Blanche, plaide l'administration Trump dans un recours devant la Cour d'appel fédérale. Audience prévue demain après-midi. En attendant, les ressortissants des 7 pays musulmans visés circulent librement. Hier, les députés israéliens ont voté en première lecture pour la légalisation des colonies juives en Cisjordanie, ce qu'on appelle les territoires occupés, des colons parfois établis depuis 20 ans mais qui n'avaient jamais obtenu de recours. Connaissance officielle. Un abattoir humain, c'est l'image terrifiante choisie par Amnesty International pour dénoncer la politique d'extermination du régime syrien à Saïdnaya, c'est une prison près de Damas. 13 000 personnes, des civils surtout, y auraient été pendues entre 2011 et 2015 dans le secret le plus total. Et puis un chiffre, près de 15 000 cancers pourraient être évités en France chaque année si on améliorait les conditions de vie des plus défavorisés. C'est le résultat de cette étude, la première du genre publiée par l'agence sanitaire Santé publique France.
D'accord. Alors Marie-Bonnet, et ce, vous me disiez, ça va bien, oh, il y a ce pays où ça va bien, là.
Lequel ?
Mais si ce métier, ce corps de métier dans lequel ça roule ? Ah non, il n'y a pas...
Ça veut dire ?
Alors, dans ces cas-là, ce qu'on fait...
J'en ai pas trouvé.
Ce qu'on fait avec Thierry Paré, quand c'est ça la journée, on enchaîne sur le sport après. Parce que dans le sport, il y en a toujours un qui a gagné
en
sur
fait,
les deux.
En fait, je voulais donner une information sport, mais je n'arrive pas à prononcer le nom du skieur.
Oui, ben alors...
Premier à 8h, je m'entraîne.
S'il vous plaît, comme ça, ça fait de la bonne information. Et si le sport, on n'y arrive pas, on a la météo. Et d'habitude, on a la météo flamenco.
Bonjour, je suis Tito.
Non, non, c'est une imitation qui est consternante. Non. Tito est rentré au lac d'Ourthe un peu, puisque comme c'est notre correspondant Aquitaine, il faut qu'il y soit. Vous pouvez nous faire la météo flamenco, Christophe ? Qu'est-ce que c'est que ça ?
J'ai aucun sens du rythme, mais je vais le faire quand même.
Voilà, personne n'est obligé d'écouter. La météo tapage sur la table de Christophe Méné.
À Paris, il fait entre 5
non, non, non,
et 11.
Non, non,
à Lille, il faut... je tape, tu bon, me dis.
On l'accompagne, François.
Oui, oui, bah moi je veux bien, là, oui.
François, t'as le sens du rythme.
Énorme, énorme.
Ouais, il faut dire les... à Lille, entre 4 et 5. À Metz, entre 3 et 5. À Lyon, entre 3 et 10. Et à Marseille, entre 3 et 15.
Et moi, j'applaudis maintenant.
Il manque Tito, non ?
Il y a des matins comme ça.
7h, 9h, plus près de toi.
Thomas, là vous allez être avec Samuel Laurent pour parler de Décodex. C'est le grand Thomas Baumgartner. Il faut que vous soyez implacable, mais en même temps, il faut que vous soyez aimable, il faut que vous ameniez l'invité à se dévoiler, à un moment quand même de pousser dans ses retranchements.
À la fois implacable et placable.
C'est ça, plaqué, déplaqué.
Voilà,
à tout de suite, je reste en retrait. Voilà.
N'hésitez pas à intervenir. Effectivement, Samuel Laurent est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez le service des décodeurs au Monde. C'est un service en quelque sorte que vous rendez aux internautes et aux gens qui s'intéresse à l'information, vous vérifiez l'information quasiment en temps réel au fur et à mesure. Et puis là, aujourd'hui même, s'achève la première semaine d'existence d'un nouveau service qui s'appelle Décodex. Un autre service que vous rendez aux auditeurs, c'est-à-dire qu'on peut vérifier par plusieurs manières d'ailleurs la validité de certains sites, et en particulier des sites d'information. Il y a à la fois une sorte de moteur de recherche, il y a une application, ça se décline de plusieurs manières. Comment ça fonctionne, Décodex ?
Alors, donc, Décodex, l'idée, c'était effectivement le constat, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens qui sont perdus sur les réseaux sociaux et qui, de bonne foi, ne savent pas forcément faire la différence entre un site fiable et un site qui l'est moins. Donc, notre idée, c'était de fournir un service. On a indexé en gros 600 sites à peu près, essentiellement français, mais il y a aussi des sites étrangers, qui sont, voilà, pour la plupart, pas fiables. On a indexé aussi des fiables parce que.
Parce qu'il en faut et parce qu'il y en a.
Parce qu'il en faut aussi parce qu'il y en a. Et donc, l'idée, c'est que vous pouvez aller sur le moteur de recherche pour regarder un site et ça va vous dire, voilà, ce site est plus ou moins fiable, ou ça va vous dire aussi d'où il parle, entre guillemets, c'est-à-dire est-ce que c'est un site d'extrême droite, d'extrême gauche, de, j'en sais rien, écologiste, conspirationniste, ce qu'on veut. Et donc ça se décline également en une extension pour navigateur, donc c'est un petit programme que vous installez sur Chrome ou Firefox qui va vous faire la même chose, mais à mesure que vous naviguez, donc vous arrivez sur tel ou tel site pas fiable, ça va vous faire un petit pop-up rouge qui va vous dire attention, ce site-là, il faut se méfier des infos que vous y trouvez.
Nous, on serait fiable ?
Vous êtes, je ne sais pas si on vous a classé.
Non, j'ai regardé novaplanète.com, on n'y est pas encore.
Notre but, ce n'était pas de classer non plus tout le web français, ouais. Forcément, parce qu'on n'en a pas les moyens et ni l'ambition, c'est vraiment de pointer les sites pas fiables. Donc, si vous n'y êtes pas, c'est quelque part que...
C'est bon signe. Bon, il y a 600 sites hein, qui sont comme ça dans cette liste des codex. Comment vous avez établi cette liste-là ? C'est le résultat des années de pratique des décodeurs ?
Il y a beaucoup de ça, oui. Nous, on connaît pas mal de sites qui diffusent des intox, parce que notre boulot, c'est de les démonter. C'est un peu le constat qu'on a fait. C'est aussi que, voilà, ils s'en créent 4 pour une qu'on démonte, donc c'est qu'à un moment donné, s'attaquer aux sources, c'est une manière un peu de tenter de juguler le flux un peu plus efficacement. Donc après, on a posé des critères journalistiques, c'est-à-dire que notre but, c'est pas de flaguer les sites d'extrême gauche ou d'extrême droite ou que sais-je, c'est vraiment de flaguer des sites qui diffusent des informations peu fiables ou orientées, ou très orientées, disons, au point où ça devient un problème. Donc c'est des critères journalistiques, c'est-à-dire est-ce que le site donne ses sources, est-ce qu'il produit lui-même ses infos, est-ce qu'il fait du contradictoire, c'est-à-dire est-ce qu'il croise plusieurs sources, est-ce qu'il se contente de faire de la reprise, est-ce qu'on peut identifier ses auteurs, etc. Enfin, on a une grille de lecture comme ça qui nous a permis d'établir notre base de données,
le corpus.
C'est formidable parce que je me demandais qu'est-ce qui est décrété, que c'est fiable ou pas fiable. J'ai beaucoup aimé. Redites-moi les 4 là.
C'est en gros, il y en a 16 en fait au total. Donc d'accord, beaucoup. Mais est-ce que c'est un site qui croise ses sources ? Est-ce qu'il produit son info ou est-ce qu'il se contente de la reproduire, de recopier en gros des choses qu'il a vues par ailleurs ? Est-ce qu'il fait du contradictoire ? C'est-à-dire est-ce qu'il croise différents.
C'est important qu'il y ait un esprit de contradiction dans le même site pour qu'on y.
Oui, puis même au sein d'un article, c'est important d'interroger plusieurs sources. Si vous faites un article basé sur une seule source, c'est quand même moins fiable que si vous avez interrogé 4 personnes en général.
Mais alors j'ai regardé le monde lui-même, on peut regarder à quel point
fiche,
voilà et vous l'avez fait le plus tôt fiable et vous invitez à recouper les informations, mais ça c'est une sorte de prudence de base, j'ai l'impression, y compris
ailleurs,
sur
voilà,
le Washington Post c'est la même chose, le Guardian.
Ce qu'on dit nous c'est qu'il y a aucune source qui est fiable à 100%, que tout le monde fait des erreurs et que évidemment notre but c'est pas de dire le monde n'en fait jamais et je ne sais quel site en fait tout le temps, c'est de dire nous quand on en fait on les corrige, on essaye d'être dans une démarche d'honnêteté, ce qui est pas le cas de beaucoup de gens qui sont dans une démarche plus militante et plus questionnable. Après évidemment aucune source n'est parfaite et ce qu'on essaye aussi de dire aux gens c'est d'apprendre un peu à comment s'informer. Donc on a mis en ligne aussi tout un kit d'infos pour à destination qu'on a conçu de manière très accessible pour qu'il soit vraiment lisible à partir de 10-12 ans, avec l'idée de dire voilà qu'est-ce que c'est une information, qu'est-ce que c'est une source, comment on croise une source, comment on sait qu'on est face à une théorie conspirationniste, des petites fiches comme ça bêtes, comment vérifier une image par exemple, qui est un truc très très basique qui prend 2 clics mais que peu de gens connaissent et qui permet pourtant d'éviter de relayer, c'est un peu le message qu'on essaie de porter, c'est essayer de réfléchir avant de relayer quelque chose parce que c'est très facile de relayer quelque chose sur les réseaux sociaux et que parfois vous relayez des intox sans le savoir et que c'est comme ça qu'on crée des rumeurs ou des phénomènes artificiels.
D'une certaine manière, Samuel Laurent, tout un chacun est devenu depuis plusieurs années maintenant une forme de journaliste à la première personne. Et là, vous donnez un outil et ce que vous décrivez là, finalement, ce sont les outils de base du journaliste, normalement, recouper une information, etc. Et là, vous donnez un peu ces outils-là pour chacun.
C'est un peu l'idée. Après, moi, je pense que tout le monde n'est pas forcément devenu journaliste. Tout le monde est devenu un média et c'est peut-être là qu'est la différence. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que les journalistes qui peuvent écrire des choses sur Internet du tout. Je pense que tout le monde peut. Mais je pense que le journaliste, c'est comme plombier, c'est un métier. Et à un moment donné, notre métier, c'est de fournir une info qui est plutôt fiable. Et pour ça, on a des techniques. Qu'on apprend, etc. Et ces techniques, tout le monde ne les a pas. Donc, ce qu'on essaye de dire, oui, c'est à un moment donné, une info, ça se recoupe, ça se vérifie, et on ne peut pas se contenter d'une rumeur et la partager et dire qu'on fait du journalisme.
À l'aveugle, oui. Il se trouve que là, Google va lancer une initiative assez proche de Décodex qui s'appelle Cross-Check, c'est la fin du mois. Facebook va mettre en place une forme de labellisation des informations aussi. Vous pensez que ces outils-là vont devenir des outils, on va dire, communs, évidents dans les semaines, les mois qui viennent ?
Je le souhaite pour Décodex et pour le reste. Je pense que la question, en tout cas, elle est ouverte. Et nous, ce qu'on voulait, c'était avant tout l'ouvrir et mettre en place un débat. On est conscient que notre outil a plein de défauts. On en a pris plein la tête à la sortie, on s'y attendait. Mais après, je pense que les réseaux sociaux, oui, ont un rôle à jouer là-dedans qui est majeur, parce qu'aujourd'hui, c'est eux, finalement, les canaux de distribution de l'information, beaucoup plus que nous, les médias. Donc, je pense que c'est un premier pas. Je pense qu'ils peuvent encore faire beaucoup, beaucoup de choses pour aller dans la bonne direction. Et j'espère que tout le monde va s'emparer de ces outils. Je pense qu'après, c'est aussi une question de responsabilité et de ne pas se comporter comme en simple consommateur d'infos. D'être un peu dans une réflexion sur qu'est-ce que je partage et est-ce que ce que je partage, je l'ai un minimum vérifié.
Mercredi dernier, quand Décodex est sorti, il n'est pas sorti en douce. Il y a eu beaucoup de réactions, vous l'avez dit. Et une des oppositions qu'on vous fait, c'est que Le Monde étant lui-même un média, vous êtes jugé parti, vous répondez quoi ?
Que effectivement, dans un monde parfait, sans doute, il aurait fallu trouver une commission ad hoc d'experts capables de faire ça. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas trouvé, que mettre en place un outil parfait, bah, ça prend plein de temps, parce qu'il vous faut, voilà, et que là, on a estimé qu'on n'avait pas le temps, qu'il y avait la présidentielle. On est tout à fait conscient de ça. Moi, on n'est pas du tout opposé par ailleurs à l'évolution de l'outil, et pourquoi pas mettre en place une commission de validation. Nous, notre idée première, c'était vraiment servicielle, c'était de dire, on veut flaguer des sites que nous, on connaît pour diffuser du faux, et dans lesquels on voit plein de gens tomber. Enfin, se faire avoir et les relayer. Et donc, c'était pas forcément de mettre en place une espèce de commission supérieure d'éthique de validation des médias du tout. Et encore une fois, le message qu'on porte, c'est pas du tout... Enfin, je veux dire, on aurait pu écrire un guide papier quelque part de nos recommandations. Là, on le fait d'une manière un peu plus moderne, mais ça n'a pas la prétention d'être l'étape de la loi du journalisme en France, quoi.
Alors, culturellement, Internet ne se police pas du tout. C'est même la définition un peu de ce médium. Est-ce que vous avez l'impression que les grands réseaux sociaux devraient quand même eux aussi commencer à alerter les gens sur ce qui circule un peu plus, ou il faut garder cette grande liberté mondiale?
Je pense que c'est un peu le dilemme qu'ils ont eux, c'est-à-dire que c'est des entreprises qui sont conçues avant tout comme des entreprises de technologie, qui ne sont jamais vécues comme des médias. Or, de fait, ils en deviennent. Et c'est vrai que ça leur pose cette question-là. Chez Facebook, par exemple, c'est ce qui a conduit à mettre en place le système qu'ils font, là, qui est effectivement audacieux, puisque ça veut dire qu'ils vont permettre aux gens de signaler une info comme fausse, elle sera ensuite vérifiée par des journalistes. Et si elle est effectivement fausse, elle sera en gros descendue dans l'algorithme de Facebook et donc plus difficile à partager, on la verra moins. Donc c'est quand même un premier pas vers quelque chose qui est un peu c'est une brèche dans cette espèce d'approche effectivement très libérale de l'information qu'on a dans sur tous les grands réseaux sociaux qui sont cette conception américaine de la liberté d'expression très absolue. C'est un peu une brèche et un premier pas pour dire bon, peut-être qu'on n'a pas envie qu'il y ait des trucs faux qui se partagent des millions de fois sur nos réseaux. Après, ils peuvent encore faire énormément de choses. Je pense notamment à Google News. Alors, c'est l'exemple que je prends tout le temps, mais j'aime bien embêter Google avec ça. C'est vous allez sur Google News en France. À côté d'un article du Figaro ou du Monde ou de l'Express ou que sais-je, vous allez trouver des articles de, par exemple, Brezatao, qui est un blog tenu par un monsieur qui s'appelle Boris Lelay, qui est actuellement recherché par la police et en fuite au Japon parce qu'il pour ses écrits antisémites. Et lui, il est dans Google News comme une source d'information.
Sans hiérarchie, c'est ça que vous voulez dire.
Non seulement sans hiérarchie, mais en plus sans sélection. Parce que c'est-à-dire que dès que ça ressemble à de l'info, même si c'est écrit par un type condamné par la loi pour antisémitisme qui prêche la haine à longueur de billets, bah, ça c'est dans Google News. Alors que pour moi, ça n'a pas sa place là. Évidemment, ça peut avoir sa place sur Google, c'est pas la question.
Mais... Est-ce qu'il y a une guerre ? Il va y avoir une guerre, à votre avis, des grands réseaux sociaux contre Trump ? Et est-ce que ça, c'est lié tout ça ?
Je pense qu'ils se posent des questions par rapport à Trump. Et je pense que leur grande réaction là et l'agitation qu'il y a en Europe autour de ces questions-là, elle est évidemment liée au fait que l'élection américaine leur a pas forcément, enfin, les a surpris, et je pense qu'ils n'étaient pas forcément, c'est des Californiens en général qui sont pas forcément pro-Trump. Est-ce qu'il va y avoir une guerre entre eux et Trump?
Non, parce que Trump étant l'image justement de ça, que le vrai ne serait qu'un moment du faux, le faux un aspect du vrai, et tout à coup les réseaux sociaux qui viennent de Californie décident tout à coup de réagir et de ne plus être simplement technologiques.
Je pense qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, à l'intérieur de ces grosses structures, il y a beaucoup de débats internes. Enfin, nous, c'est ce qu'on a senti chez plusieurs, c'est qu'il y a une partie des gens qui sont convaincus qu'il faut faire quelque chose, et une autre qui est encore dans cette conception très libérale de information, pas de censure, et tant pis, et taillot. Quelque part, Trump pour Twitter, c'est quand même une super opportunité, parce qu'il justifie presque à lui tout seul l'existence du réseau social, qui a toujours eu du mal à trouver un modèle économique, mais qui là, du coup, devient un peu le centre du monde, puisque c'est là où l'homme le plus puissant du monde dit en gros ce qu'il va faire toute la journée.
Il n'y a pas de système de vérification prévu pour le moment sur Twitter, a priori. Décodex, Samuel Laurent, il y a une adresse, lemonde.fr/vérification.
Voilà, merci. Vous avez beaucoup menti pendant cette interview?
Ah, beaucoup, quasiment tout est faux.
Merci.
7h, 9h, plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle.
Mais là, c'est les vacances, en fait, Madeleine. Là. Donc, tu vas pas à l'école du tout ?
Non.
Tu vas quoi ? Il y a un centre de loisirs ou tu fais quoi ?
Le plus souvent, je vais au centre de loisirs.
Il se passe quoi là-bas ?
On fait des activités.
Par exemple,
on peut faire hibou.
Hibou?
C'est
qu'on imite des hiboux?
Non, en fait, c'est une sorte de cache-cache.
Ah bon, mais moi je connais pas, vous connaissez François hibou?
Non, non, non.
Parce que hibou, bon, moi, donc il y en a un qui fait ouh, ouh. Non,
non
je suis pas très bon hibou. On va faire de la poésie plutôt.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant, un poème.
Madeleine, ton poème s'appelle La différence.
Oui.
C'est un poème que tu dis à l'école.
Oui.
Est-ce que tu l'as déjà dit devant toute la classe?
Oui.
Est-ce que tu as eu le trac?
Non.
Je te crois pas. À mon avis, tu as eu un petit peu le trac devant toute la classe, non?
Un peu, mais ça
va. On est volontaire ou c'est la maîtresse qui monte quelqu'un? La prof, elle dit tiens, c'est toi qui monte le dire?
d'accord, c'est les deux en fait.
Donc tu étais contente que ça soit à toi de le dire?
Oui.
Et après ils applaudissent les autres enfants, comment ça se passe? Ou on a une note?
On a une note.
Et quelle a été ta note?
A.
Ah, eh bien nous allons voir avec le professeur Rollin, si tu vas voir un A ici. On écoute la différence.
La différence. Pour chacun, une bouche, deux yeux, deux mains, deux jambes. Rien ne ressemble plus à un homme qu'un autre homme. Alors, entre la bouche qui blesse et la bouche qui console, entre les yeux qui condamnent et les yeux qui éclairent, entre les mains qui donnent et les mains qui dépouillent, entre les pas sans trace et les pas qui nous guident, où est la différence, la mystérieuse différence? Jean-Pierre Siméon.
Ah oui, c'est formidable. François.
Oui, magnifique.
Donc le A.
Et maintenant, on attend le A, bien sûr, et puis en même temps, la réponse à la question qui viendra dans les, peut-être dans les jours suivants.
Où est la mine? Est-ce que tu aimes bien que ça se termine par une question?
Bah oui.
Tu penses qu'il y a une réponse à cette question?
Je sais pas.
Donc peut-être qu'il y aura un autre poème.
Est-ce
de Jean-Pierre
qu'il
n'y
a pas, Madeleine, une guerre entre le bien et le mal derrière tout ça?
Oui.
Voilà. Vous voyez, Edouard, je vous le disais.
Oui, vous allez plus loin, vous savez décrypter entre les lignes. La maîtresse, elle vous explique dans ces cas-là ce qu'il y a caché derrière les mots, parfois?
Non, pas vraiment.
Eh bien, si elle écoute, elle va être contente. On t'embrasse très fort, Madeleine. Tu vas aller faire du hibou?
D'accord.
Bravo.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Très, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baird. Pouette, pouette, la hurlette, ta gala, la queue du rat.
Je vous jure, ça peut le coup.
Vous voyez, Edouard, là j'ai mis le générique, parce qu'on ne l'avait pas mis tout à l'heure.
Armel,
à 7h.
Vous avez mis le générique de l'émission, vous ne l'aviez pas mis à 7h?
C'est ça.
Qu'est-ce qui s'était passé dans votre tête? vous êtes fou dans votre tête, quoi.
J'ai pris une décision. Hein, j'ai
l'impression
qu'il y a
un carnaval de cinglerie, qu'il y a un feu d'artifice.
C'est vous aussi, Edouard, vous donnez un petit peu le ton de ce carnaval
de
cinglerie.
Non. Moi,
si, c'est quand même un petit peu, vous êtes réputé pour être quand même très farfelu, très fantaisiste, que ça part dans tous les sens. C'est-à-dire, Edouard, une fois qu'il débarrasse, on ne l'arrête pas. Ça, tout le monde le dit. Edouard, il commence il est parti, il explose. C'est un feu d'artifice, on ne sait plus où on va.
Tu vas me faire les tranches un tout petit peu plus fines. Le journal de Marie Bonisseau.
Radio Nova.
Des excuses et on continue. C'était la conférence de presse de François Fillon hier après-midi qui maintient sa candidature. Oui,
ouais,
Pénélope.
Mais qui se vient fou, il y a des...
Donc qu'est-ce qu'il a dit? Pénélope, oui, elle a été ma collaboratrice pendant 15 ans, ce n'était pas un emploi fictif. Et il a aussi publié ses revenus hier soir. Tout est donc légal, mais ça suscite la défiance des Français. C'était une erreur et je m'en excuse. Alors maintenant, tout le
je
monde...
Je m'en excuse n'est pas excusez-moi. Donc il n'y a pas un appel aux Français, m'excuserez-vous.
Il n'y a pas eu de référendum.
Je
non.
vous prie de m'excuser, excusez-moi. Je m'en excuse. Donc c'était, il a réglé ça avec lui-même et il s'est autorisé à se représenter.
Alors, on ne sait pas si ça va marcher. En tout cas, pour son porte-parole, tout le monde à droite est clairement derrière lui maintenant. Il est donc rassuré avant la réunion devant les députés républicains qui est prévue en fin de matinée à l'Assemblée. Aulnay-sous-Bois sort d'une nuit sous tension, des poubelles, une dizaine de voitures brûlées, deux restaurants visés par des cocktails Molotov, plus de 24 personnes interpellées. La colère gronde après l'agression de Théo la semaine dernière, un jeune habitant de la cité des 3000, victime d'une grave bavure policière semble-t-il. Un policier mis en examen pour viol, trois pour violence en réunion. Le témoignage de Théo est à retrouver sur lesunrock.com. Aux États-Unis, Donald Trump est toujours déterminé à faire passer son fameux décret anti-immigration, bloqué par un juge fédéral. Ce décret relève de la seule autorité de la Maison-Blanche, plaide le ministère de la Justice, qui a déposé un recours devant la Cour d'appel de San Francisco en attendant l'audience cette nuit, heure de Paris. Les ressortissants des 7 pays visés circulent librement. À noter qu'une centaine d'entreprises de la Silicon Valley a déposé une lettre contre ce décret, ainsi qu'un millier de diplomates américains. Hier, les députés israéliens ont voté pour la légalisation des colonies en Cisjordanie, ce qu'on appelle les territoires occupés. Un texte passé en première lecture qui concerne donc ces communautés établies depuis près de 20 ans sans autorisation officielle. Et c'est la première fois qu'une loi est votée pour des terres situées en dehors d'Israël. Ce rapport est titré « Abattoir humain » et il est signé Amnesty International qui dénonce la politique d'extermination du régime syrien à Saïdnaya. C'est une prison pas loin de Damas et 13 000 personnes y auraient été pendues entre 2011 et 2015 dans le secret le plus total. La plupart étaient des civils considérés comme opposants au régime de Bachar el-Assad, explique Amnesty. On le sait déjà, le niveau de vie a une influence sur la santé, mais là, c'est une étude chiffrée. Près de 15 000 cancers auraient pu être évités en France chaque année si on améliorait les conditions de vie des plus défavorisés. Cas le plus évitable, d'après cette étude, ce serait le cancer des poumons qui touche particulièrement les personnes défavorisées. Cette analyse est donc la première du genre. Elle est publiée par l'Agence sanitaire Santé publique France. Et puis honneur aux femmes pour les mondiaux de ski qui commencent aujourd'hui à Saint-Moritz en Suisse. Super G dames à midi si la météo le veut bien. Je rappelle qu'hier les entraînements ont été annulés. Alors ce midi, Lara Goetz et Lindsay Vonn sont favorites, mais nous suivrons surtout le maillot 18 parce qu'on est chauvin et que c'est celui de Tessa Worley, la meilleure chance de médaille française, qui estime le terrain de Saint-Moritz, je cite, assez joueur, c'est-à-dire sans pente très raide, mais sans plat très plat.
Les agarpentés, les descents de Saint-Moritz avec Roger Moore, Sean Connery et tous les amis. L'avis de Christophe Méné sur les nouvelles. Comme chaque jour depuis aujourd'hui, Christophe Méné a écouté le journal et nous donne le meilleur de son avis.
Et ben moi, j'ai trouvé
le... Alors, les, un micro ouvert.
Marche, micro,
non mais c'est voilà. Peut-être que le micro refuse de vous prendre parce qu'il imagine ce que vous allez dire.
C'est ça. Non, moi j'ai trouvé le journal vraiment très bien. Et puis je trouve que Marie Bonisso a vraiment une belle voix. Et c'est ce que je retiendrai du journal, c'est qu'elle est classe, Marie Bonisso.
L'avis de François Rollin sur l'avis de Christophe Méné.
Christophe, c'est mignon, est en train de draguer Marie, hein, je le dis dans les termes qu'on utilisait autrefois.
Oui, tu
est
peux
en train
dire.
De lui faire la cour en lui faisant des compliments dont il ne pense pas un mot. Alors, il y a un côté charmant, puis il y a un côté pute à la fois chez Christophe. Voilà, c'est ça que je dirais.
L'avis de Christophe Méné sur l'avis de François Rollin sur lui.
Eh ben, moi, je trouve que François a très très bien analysé la situation. En effet, je suis en train de draguer honteusement Marie Bonisso. Il est vrai que je ne pense pas un mot de ce que j'ai dit.
L'avis juste à des de fins... Marie Bonisso sur l'avis de Christophe Méné sur l'avis de François Rollin sur son avis.
Je suis contente que personne ne pense ce qu'il pense et je retiens donc que je... La seule chose qui a été vraie sur moi, c'est que je suis une excroissance.
À partir du moment où on ne pense pas ce qu'on pense, c'est pas une raison pour ne pas faire ce qu'on fait.
7h-9h, plus près de toi.
Philippe Catherine, qui reprend la fameuse chanson de Boris Vian.
Pain sucré céréales. Voilà.
Ouais, 250 grammes.
Je connais pas les poids des pains. Parce que je ne suis pas vendeuse à la base.
Vous êtes quoi à la base?
À la base, je suis auxiliaire, auxiliaire de vie. Voilà.
Tu t'occupes des petits pains?
Voilà, j'ai changé. Mon ami avait besoin de moi, mon meilleur ami, donc je suis venue l'aider dans sa boulangerie. Chercher du travail, donc ça tombe bien.
Alors là, ça glisse par terre, c'est la farine?
C'est énorme.
L'appel de l'ami vous a projeté dans le palais du pain?
Oui.
Vous êtes retrouvée d'auxiliaire de vie à accompagnatrice de pain ?
À vendeuse.
Vendeuse, donc vous faites quand même le chemin du stock jusqu'au client, donc il y a un accompagnement quand même.
Ah oui, il y a un gros accompagnement. Et oui. Surtout qu'il façonne son pain à l'ancienne.
Et puis le pain qui lui-même accompagne le repas, donc on reste quand même dans l'idée de tenir compagnie.
Tout à fait.
Donc c'est quand même dans l'affiliation de votre premier métier.
Oui, parce que j'adore être avec les gens. J'adore parler.
Ben oui, on sent, vous avez une voix, on sent qu'on est accueilli dans cette boulangerie. Est-ce que le pain lui-même, pour vous, il accompagne quoi? Quand vous vendez du pain, vous imaginez du pain qui serait une mouillette dans un œuf à la coque, du pain beurré, du pain pour saucer?
Non, des bons sandwichs. Surtout.
Des sandwichs, François.
On est en train de faire des sandwichs pour le midi.
Dites-moi, vous nous avez beaucoup parlé de croûte jusqu'ici, mais est-ce que vous pourriez nous dire un mot de l'ami du pain de l'ami?
Vous voulez parler de moi?
Ben, de l'ami, du pain, de l'ami.
L'ami de pain? J'arrive pas à comprendre.
Non, je pense que François Rollin, qui est quelqu'un qui n'a plus de dents depuis 4 ans, s'intéresse plus à l'ami qu'à la croûte dans le pain. Il voulait être sûr que c'est un pain qui accompagnait toutes les dentures.
Voilà, mais c'est... Non, toutes les dentures, parce qu'il y en a du mou et il y en a du dur. Tout dépend de ce qu'on recherche.
Est-ce que ça vous arrive, quelqu'un dit, qu'est-ce qui vous avez du pain mou? Je crois pas trop.
Ça m'arrive, on me demande du pain mou.
Parce que, est-ce que vous. C'est lié vraiment à des problèmes dentaires d'une partie de la clientèle qui serait en.
Comme la vendeuse, elle a des problèmes dentaires.
Non, pas du tout. Pas du tout. Je vous trouve très bien dentalement, je vous trouve au top.
C'est pas vrai.
Là, vous n'êtes même pas venu me voir.
Non, mais ça s'entend, vous êtes bien, tout va bien. Du bout des dents jusqu'aux ongles des pieds, vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes bien, quoi.
Oui, je suis très, très bien dans mes baskets.
Dounia, elle est très, très active, elle est en train de faire des sandwichs, elle tourne dans tous les sens, ça sonne à la porte. Elle y va.
Manger un sandwich ?
Mais moi, je vous aime beaucoup, Dounia, mais vous êtes à Lyon, là.
Et alors ? C'est pas loin, Lyon.
Ben oui, mais je peux pas être dans le TGV toute la journée, moi.
Il n'est pas Mélenchon, hein. Il...
Oh, voyons.
Mais non, parce que je voulais dire que je n'ai pas d'hologramme.
Oui.
Oh, c'est vrai, ça coûte cher, ça coûte trop cher pour vous.
Vous aimeriez avoir un hologramme, c'est-à-dire être à la fois dans la boulangerie et dans un autre lieu ?
Oui, avec vous.
Oh là, oh là, oh là, tout doux, c'est très chaud. Mais moi, je ne suis pas un lieu géographique, je suis un lieu spirituel. Mais géographiquement, vous aimeriez que votre hologramme soit où ?
Mon hologramme soit où ?
Est-ce que vous...
Oui. Qu'il soit avec mes enfants toute la journée, parce que je ne les vois pas beaucoup.
Ils ont quel âge, vos enfants ?
6 ans et 4 ans.
Ah oui, à 6 ans. Et comment vous faites alors ? Vous les appelez, vous les...
Je les appelle et je leur fais des gros câlins quand je rentre le soir. Voilà.
Bon, ben alors on a ici le Nicolas qui s'est occupé de l'hologramme de Mélenchon. Il va trouver des solutions.
Une espèce d'ubiquité amoureuse, quoi, c'est sympa. Ouh. Mais là, vous avez attrapé dans la rue quand même parce que vous aviez une annonce à passer.
Une annonce à faire.
Oui.
Peut-être l'annonce.
Voilà, c'est une annonce. J'y tiens beaucoup parce que le patron, l'artisan, celui qui tient la boulangerie, c'est un ami à moi. Un ami, hein.
Oui, oui.
Et parce qu'on m'a posé la question et voilà, il met sa boulangerie en vente.
Oui.
Parce que, voilà, il est fatigué et oui. Voilà.
Alors,
donc, mets l'annonce et il tient à la vente très vite.
Mais dites l'annonce, elle est où cette boulangerie ?
Elle est au 9 avenue Général Leclerc à Grand Clément, 6900, Villeurbanne.
Alors, à Villeurbanne, le 9 avenue Général Leclerc, hein, qui a, je me rappelle, la libération de Villeurbanne par la deuxième DB, le Général Leclerc.
C'était sixième.
Deuxième, je vous en prie. Et ça a été très beau, je me rappelle, c'était Villeurbanne martyrisé, Villeurbanne humilié, mais Villeurbanne libéré.
Elle est libérée. Et donc, voilà, 9 avenue Général Leclerc.
Ça sera vendu.
6900, Villeurbanne.
Aucun problème. On vous embrasse très très fort, Dounia, et tout va s'arranger. Vos numéros de la chance sont le 9, le 7 et le 34. Votre couleur, le bleu. Votre jour de l'année, le 11 mars. Et le numéro complémentaire, le 6. Un très gros bisou.
Loto, je viendrai vous voir.
Salut, avec plaisir.
Allez, bonne journée.
À 8h20, on écoutait le musicien anglais Sing Kane avec encore un titre impossible à prononcer. Ça s'écrit U-H-U-H, donc Uhu peut-être.
D'accord, donc c'est pas que vous ne parlez pas anglais, c'est simplement que le titre lui-même ne n'appartient pas non plus à la langue anglaise telle qu'on la connaît.
Je sais pas, c'est de l'anglais ça, Uhu.
C'est pas bien.
C'est de la colle.
C'est ça, un tube de colle.
Ah, la colle, Uhu. Merci, il faut aller très vite avec vous, Franck, merci. Guillaume Villemot, bonjour.
Bonjour, Edouard.
Guillaume Villemot, avec le réseau des ZEB, vous fédérez, vous répertoriez des initiatives, des associations solidaires, novatrices, innovante, ce qui est à peu près la même chose. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler, cher Guillaume Villemot ?
Alors, on va parler d'un sujet qui n'existe pas, d'une association qui n'existe pas, mais dont pourtant il faut parler. Ils m'ont demandé de parler d'eux, mais de faire comme s'ils n'existaient pas, parce que si on parle trop d'eux, ils n'auront pas de papier régularisé, ils n'auront pas de situation réglée. Or, c'est une association qui existe, qui s'appelle le Forum, qui est installée à Calais, et qui rêve d'ouvrir un cybercafé pour les jeunes qui sont à Calais aujourd'hui. Alors, en priorité pour les habitants de Calais, mais aussi pour les habitants qui passent par Calais. Sans que je puisse donner le type d'habitants qui passent par Calais, je vous laisse imaginer ce que ça peut être.
D'accord, donc tout ça est très codé. Donc, calaisien de naissance, calaisien d'adoption, calaisien de hasard, mais tout le monde peut s'y rencontrer.
Ouais, exactement. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'est par l'éducation que les choses passaient, et donc qu'il fallait aider tous ces jeunes à écrire un CV, apprendre le français, apprendre à coder, etc. Et donc, ils m'ont envoyé un CV. Ils m'ont envoyé un mail l'autre jour en me demandant est-ce qu'on pouvait les aider, comment on pouvait faire pour les aider. Et j'ai été assez touché par le mail qu'ils m'ont envoyé, que cette personne m'a envoyé, dont je ne peux pas donner le nom parce que sinon il risque de ne plus avoir ses papiers. On est donc dans la France de François Hollande et pas dans l'Amérique de Trump. Mais il y a une femme qui est à côté de lui qui s'appelle Karine. Je ne peux pas en dire plus. qui est une femme exceptionnelle, qui depuis 20 ans vient en aide aux gens qui sont de passage à Calais et qui fait un travail formidable d'accompagnement, de protection. Elle me dit, moi j'ai 3 vrais enfants, mais tous ces jeunes qui sont passés sont mes enfants. Aujourd'hui, elle planque des papiers pour eux, elle planque leur diplôme parce que sinon on leur vole. Et aujourd'hui, surtout, c'est que ces jeunes reviennent et ont envie de se fixer en France. Et ils viennent à Calais parce que, pour certains, parce que c'est le passage le plus proche pour aller en Angleterre, mais surtout parce qu'il y a des gens accueillants, malgré tout.
Depuis qu'il y a eu comme ça beaucoup de gens de passage à Calais, ça fait quand même plusieurs années qu'il y a eu un moment, ce qu'on appelait même la jungle de Calais. On a le droit de dire ce mot-là.
La jungle, on a le droit, oui.
Et bien, tout à coup, là, ce qu'on découvre, c'est que grâce à des solidarités, à des initiatives, des gens ont pu passer des diplômes et tout à coup se construire dans la vie.
Et ont envie de rester, et ont envie d'apporter ce qu'ils ont avec eux, et ce qui fait leur richesse, et ce qui fait leur force. Et c'est en ce sens, quand j'ai reçu leur mail, je me suis dit, mais on ne peut pas les laisser comme ça. Et j'avais dit, mais moi, je crois encore au Père Noël. Ils m'ont dit, mais moi aussi, je crois au Père Noël. Donc, il m'a envoyé sa liste au Père Noël de choses dont ils ont besoin pour ouvrir ce cybercafé, qui vont depuis des ordinateurs, des tables, des cuillères en plastique pour tourner le café et mélanger le sucre et le café, des tasses en plastique, etc., etc. Parce qu'il leur faut un point de fixation, parce qu'il leur faut un point où ils peuvent se reposer, où ils peuvent se poser, et surtout où ensemble, ils peuvent travailler et construire des projets. Et ce que je trouve formidable et ce qui est important dans ce qu'elle veut faire, c'est à la fois mélanger effectivement des Calaisiens et des gens de passage. Parce que c'est en construisant ensemble qu'on arrivera vraiment d'abord à faire tomber les peurs qu'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres. Et puis ensuite qu'on arrivera à faire exploser ce système aujourd'hui qui fait que d'un côté on met les gens de passage et de l'autre côté on met les gens qui sont des bons Calaisiens ou qui vivent là depuis toujours.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut envoyer? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de donner comme coordonnées?
Alors, si on a eu le droit à avoir une adresse mail qui est forumasso2016@gmail.com, forumasso2016@gmail.com, tout en attaché. Et ce dont ils ont besoin, bah, c'est des postes d'ordinateur, c'est des chaises, c'est des imprimantes, c'est un petit bureau, c'est un grand bureau, c'est donc encore une fois une machine à café, des machines à sécher, des machines à laver, parce que si les gens qui sont de passage n'ont pas d'endroit pour pouvoir se laver, pouvoir laver leur linge, etc., bah, aujourd'hui, elle le fait dans sa machine chez elle, mais elle a une machine qui est trop petite, donc elle ne peut pas laver le linge de tout le monde. Parce que ce qui est aussi important, c'est que ces gens, quand ils restent, ben, ils ont besoin de retrouver une forme de dignité, enfin une vraie dignité. Et quand ils vont passer des entretiens, ben, c'est con, mais s'ils ne sont pas proprement habillés, correctement habillés, c'est compliqué. Et puis, ce qu'il faut aussi dire, parce que même si on n'a pas le droit de le dire, c'est qu'aujourd'hui, dans les rues de Calais, il y a des gens qui, la nuit, font des espèces de rondes et avec des lampes de poche, des bons Français, et ben, chassent les migrants qui sont revenus se cacher à Calais. Hein, je ne l'ai pas dit.
Alors, on mettra, comme Nicolas, vous mettra en ligne l'interview de Guillaume Villemot, comme ça on aura mieux les coordonnées de l'association, parce que je pense que le matin d'aller écrire Forum Asso 2016. Ce que j'aime bien, Guillaume, c'est vous, et puis j'ai l'impression que les gens que vous croisez, avec qui vous travaillez, il y a une sorte d'enthousiasme quand même.
Mais c'est formidable, parce que moi j'ai passé de longs moments avec Karine au téléphone. Quand on entend cette femme-là, on a juste envie de monter sur la table, de tout bousculer et de se dire, on faut les aider, on peut pas les laisser comme ça, c'est pas possible, pas aujourd'hui. Moi, je suis scotché quand on entend en ce moment les débats. Il n'y a pas un mot, justement, sur les réfugiés, sur l'accueil des réfugiés. Et les gens qu'on rencontre sont des gens extraordinaires. Et c'est la chance qu'on a avec les Zèbres, c'est qu'on a des gens qui rendent heureux. C'est hyper égoïste, mais ça fait un bien fou.
C'est ça, le but, c'est
d'être perso.
Heureux.
C'est perso. Voilà. En réalité, je le fais que pour moi, les autres, je m'en fous.
Moi aussi. tous pour les autres, c'est-à-dire nous.
Oui, c'est ça.
Salut,
exactement.
Hein.
Merci.
Bonne journée, Vimo.
À bientôt.
Salaud. 7h-9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi? Ah.
On comprend pas tout, mais c'est bien.
Superbe et souple, alternatif et engageant, il débarque tous les mardis. C'est l'animal du mardi par François Rollin.
Alors, cette semaine, Edouard, le hérisson. Vous savez qu'il existe de très nombreuses espèces de hérissons. Nous allons parler ce matin de l'espèce de loin la plus répandue dans l'Hexagone, le hérisson écrasé par une bagnole. Alors, le hérisson écrasé par une bagnole est plus petit que son cousin rescapé, puisqu'il mesure rarement plus d'un centimètre de hauteur. En revanche, sa superficie est de 3 à 4 fois supérieure. De même que le caillou que nous avons étudié il y a 15 jours, le hérisson écrasé par une bagnole ne bouge pas. Il ne mange pas et il ne boit rien. On dit alors qu'il est devenu autonome, c'est très méritoire et en même temps, ça ne lui sert pas à grand-chose. Du reste, lorsqu'il est attaqué par un prédateur, le hérisson écrasé par une bagnole ne se roule pas en boule comme son cousin. Il reste totalement immobile, plaqué contre terre ou plaqué contre macadam, c'est selon. C'est sa stratégie de défense. Le petit plus de Nova, le hérisson courant dispose d'un hache aspiré, alors que le hérisson écrasé par une bagnole en est dépourvu, comme le montre le dialogue suivant. « Oh là là, papa, c'était quoi ce drôle de bruit ?»« Hein ? Oh, c'était un hérisson, je pense. »
Merci François Rollin. Une très belle approche pédagogique du rapport du vivant au mort. Donner sa chance à tous les âges de la vie, dont l'âge ultime. Hein.
Mais, dont l'âge ultime.
Dont l'âge post-âge. Bah, après. Merci François. Il est temps de Marie Bonisset. C'est un nouveau verbe. Thierry Paret avait son verbe aussi. Quand on allait écouter le journal de Thierry Paret, on disait on va Thierry Paret. Mais Thierry est aujourd'hui à la neige. Je n'ai bien sûr pas des vacances. Il n'aurait pas la vulgarité de partir en vacances. Il est en séminaire d'information. Et c'est grâce à ça que nous avons la chance d'avoir Marie Bonisset. Bonjour Marie.
Bonjour à tous. Et si Pénélope prenait la parole ? Idée de Nathalie Kosciusko-Morizet ce matin sur RTL, après le grand retour hier du mari François Fillon, qui s'est excusé pour avoir embauché sa femme comme assistante, mais qui maintient sa candidature. Il n'y a rien d'illégal et puis il n'y a pas de plan B à droite. On verra si tous les parlementaires de son camp sont d'accord en fin de matinée avec la réunion prévue à l'Assemblée nationale. Justice pour Théo, les cris des quelques centaines de manifestants d'Aulnay-sous-Bois ont encore résonné hier dans une marche de soutien à ce jeune de la cité des 3000 victimes d'une agression policière. Aulnay-sous-Bois sort d'une nuit sous tension, des poubelles, une dizaine de voitures brûlées, deux restaurants visés par des cocktails Molotov, plus de 24 personnes interpellées. Je rappelle que un policier est mis en examen pour viol, trois pour violence en réunion dans cette affaire. Puis vous retrouvez le témoignage de Théo sur le site des inroc.com. Aux États-Unis, Donald Trump est toujours bien déterminé à faire passer son décret anti-immigration, qui est bloqué par un juge fédéral. Ce décret relève de l'autorité de la Maison-Blanche, plaide l'administration Trump dans son recours. Une audience est prévue devant la cour d'appel de San Francisco cette nuit, heure de Paris. En attendant, les ressortissants des sept pays visés circulent librement. Hier, les députés israéliens ont voté pour la légalisation des colonies juives en Cisjordanie, des avant-postes parfois établis depuis une vingtaine d'années mais jamais légalisés. Le texte de loi doit maintenant passer devant la haute cour de justice israélienne, plutôt défavorable à cette reconnaissance des colonies. Un abattoir humain, c'est cette image terrifiante choisie par Amnesty International pour dénoncer la politique d'extermination du régime syrien à Saïdnaya. C'est une prison près de Damas. 13 000 personnes, des civils essentiellement, y auraient été pendues entre 2011 et 2015 dans le secret le plus total. Début des mondiaux de ski qui commencent aujourd'hui à Saint-Moritz en Suisse. La première épreuve, c'est pour les femmes. Super G dames à midi. On suivra le maillot 18, c'est celui de Tessa Worley. Meilleure chance de médaille française. Et puis après Marcel, je vous présente Carlos, la tempête qui devrait passer sur l'île de la Réunion en fin de journée. L'île de la Réunion qui est en vigilance forte pluie et vent fort.
Nova. Ah, Nova. Les championnats de ski féminin à Saint-Moritz. On avait quoi, 20-25 balais, il y avait Roger Moore, David Niven. Elizabeth Taylor sortait de son troisième mariage. On avait des pots de zibeline, des pots de phoque, des pots de peau. On était là, inconscient, jeune, le champagne coulait à flot. Valéry Giscard d'Estaing passait nous voir le soir en hélicoptère avec Roger Vadim et Brigitte Bardot. Et puis les socialo-communistes sont arrivés. Ben non, ils nous ont tout pris. Oui. Alors ça, les socialo-communistes...
Ils nous ont laissés en slip.
Ils ont fait un mal, ceux-là.
Mais là, ouais, parce que vous emmenez pas les paquets jusqu'au bout.
On est dans
Pardon la... Vous emmenez pas les paquets jusqu'au bout. Ah, tout dépend. Hein. L'ascenseur, il s'est refermé et la dame, elle est montée.
Ouais, elle a réceptionné son colis, du coup...
Mais vous n'avez pas aidé jusqu'au bout.
Bah, il n'y avait pas l'utilité de monter avec elle, quoi.
C'est quand même joli.
C'est l'ascenseur social qui est...
C'est pour vous.
C'est l'ascenseur social qui s'est bloqué.
Ça, c'est quoi ? C'est Chronopost ? Ouais, c'est DPD, Chronopost.
Oula, ça, c'est... c'est les initiales de quoi ? DPD.
C'est les initiales de quoi ?
Hein ?
DPD, c'est les initiales de quoi ?
Ah, c'est DPD, hein.
Direction provinciale de la Poste. Direction provinciale.
Franchement, j'en ai aucune idée.
DPD.
Bon, je vous laisse. Bonne journée à vous.
Oui, très très bonne journée. Jack Souvent, on débrief.
Ouais, on débrief.
Mon petit Jack Souvent, tu vas pas t'en tirer comme ça, ma petite cocotte. Papa n'est pas content du tout.
Radio. C'est Radio Nova. Ah, mais j'espère qu'elle n'est pas filmée, hein.
Non.
Elle est où, la caméra?
C'est filmé par le micro.
Jamais, elle doit être par là. Vous êtes connu, c'est pour ça? Vous êtes reconnu? Ah, bon, bah, au revoir.
Non, non, Jack.
Je suis là. Les parapluies sont sortis ici à Villeurbanne. Il pleut.
Oui, vas-y, endors-nous.
Le vent est glacial.
Non, non, c'est pas ça.
Non, là, je suis avec un monsieur qui a une bonhomie.
Non, non, c'est pas ce monsieur que je veux. C'est toi, Jack, souvent, là. Tu vas nous parler.
Oui, je vous parle. D'accord.
C'est quoi cette histoire CDPD Chronopost?
Oui, je sais pas. C'est le nom du livreur, enfin de la boutique qui livre, de la société qui livre, DPD Group, ça s'appelle.
Oui, oui.
Groupe DPD.
Et enculé, c'est les initiales de quoi? Non mais oh.
Écoutez, je vous en prie.
Enfin, écoutez, mon vieux, qui a commencé?
Écoutez, on est où là? Qu'est-ce qui se passe?
Non, mais bon, Bon, alors, pourquoi ce monsieur, c'est quoi l'histoire de l'ascenseur là?
Non, c'est-à-dire que moi j'étais en train de l'aider à porter les caisses. Il y a une dame qui a réceptionné les colis, qui était très jolie. Et les portes se sont refermées, puis on l'a abandonné comme ça avec deux gros paquets quand même.
C'est vraiment des PD quoi.
Arrêtez, s'il vous plaît, conseil, être accompagné au quotidien.
J'ai pas compris.
Je lis ce que je vois là. Là, je suis devant un supermarché. J'ai envie de rester avec vous un petit peu, là.
Je vous sens apeuré, je vous sens comme un enfant. J'ai plus le Jack souvent conquérant que j'avais, ce type qui était là, qui arpentait les villes de son pas autoritaire, ce loup.
Le cheval.
Ouais,
oui.
J'ai plus un petit animal mignon, un ourson au joli minois.
Non, pas un mignon. Je vais retrouver le coq qui est en moi.
Non, moi, j'aime bien cette enfance. À tout de suite, Jack Souvent.
7h, 9h, plus près de toi.
Thomas Baumgartner, vous êtes un homme en colère, vous, ou pas?
Oui, ça dépend des matins, mais là,
vous
je suis un peu vénère.
Vous partez d'une colère et après, vous décidez sur
quoi? Je me calme, oui.
Ouais. Mais vous décidez sur quel peut être l'objet après. Il y a la colère d'abord et l'objet...
Ça m'énerve complètement, je supporte.
Merde. Thomas Baumgartner, je vous garde. Bonjour, Anne Lafter.
Oui, bonjour.
Lafter, pardon, excusez-moi, j'ai un problème avec les voyelles depuis un moment. Nous allons parler des candidats à la présidentielle et du rapport à l'argent. D'abord de l'affaire Fillon, cher Thomas Baumgartner.
Oui, non, mais c'est ce que Anne Lafter ce dont elle va nous parler, justement, c'est cette question-là. Il y a des questions sur les finances, les budgets de la campagne, puis le rapport à l'argent personnel de certains candidats, c'est intéressant à savoir.
Ah, l'affaire qui nous occupe tous en ce moment, hein, l'affaire Fillon, qui énerve les Français. Alors, on a appelé pour en parler ce matin Monique Pinson-Charlot, qui, avec son mari, forme depuis plus de 25 ans un couple de sociologues bien particulier, c'est-à-dire qui s'intéresse à l'argent, aux riches et à leur rapport à l'argent. Donc. Et ils ont écrit des livres qui ont fait date, alors « Sociologie de la bourgeoisie » ou « Violence des riches ». Donc Monique Pinson-Charlot, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Monique.
Bonjour Edouard.
Alors, j'imagine que vous avez regardé la conférence de presse d'hier. Alors, on a vu un Fillon qui a fait un demi mea culpa, donc il a reconnu des erreurs, une faute morale. Mais il reste le candidat de la droite parce qu'il estime que sa femme donc, a bien travaillé et que tout est légal. Alors, qu'avez-vous pensé de cette défense?
Bah écoutez, c'est un représentant de la classe politique au plus haut niveau. Qui fait son devoir de se défendre à tout prix contre vents et marées. Il a donc changé brutalement, complètement sa stratégie de communication après avoir demandé une enquête très très rapide, après avoir dévoilé le travail de ses enfants, après avoir fait même des mensonges, on pourrait dire des approximations. Et puis là, tout d'un coup, il voulait donner surtout des gages, à mon avis, à tous les concurrents qui montaient leur petit plan B dans son dos. Mmh. Et donc voilà, je pense qu'il a donné comme ce qu'il a reconnu, c'était, vous imaginez, l'immense confiance que je fais à ma famille, la solidarité familiale. Quel Français ne peut pas être touché par une telle merveille d'amour, d'affection? Voilà, il n'a pas du tout... parler des sujets qui fâchent, des clients de... Enfin, si, il en a parlé, c'est un petit peu des clients de sa société de conseil. Il n'a pas parlé
De l'André Lacharrière.
De Marc Labrec de Lacharrière, qui a remis la Grand Croix dans l'Ordre National de la Légion d'honneur, qui est quand même une des plus hautes distinctions. Mmh. Et c'est vraiment extraordinaire pour nous sociologues spécialistes de cette classe-là. C'est parce que ça rappelle étrangement l'affaire Bettencourt où Patrice Demestre s'était fait mettre la Légion d'honneur par Eric Woerth, dont la femme Florence avait été embauchée quelques mois plus tard par la holding que gérait Patrice Demestre de Madame Bettencourt. Et donc là, on voit Madame Pénélope Fillon embauchée quelques mois plus tard par la Revue de Nos Mondes, propriété unique de Marc-Fabrice de la Charrière. Donc on peut pas, c'est quand même, on peut pas laisser ça dans l'ombre non plus.
Monique Pinson-Charlot, vous dites cette classe-là, vous parlez de la classe politique ou carrément non, de la classe d'origine de François Fillon. C'était un type de bourgeoisie pour vous qui se comporte comme ça?
C'est une petite bourgeoisie, fils de notaire, mais disons qu'il est quand même arrivé au top du pôle dominant du champ politique. Il est arrivé vraiment Premier ministre, la candidat à la présidentielle. Et si vous voulez, il a donné tous les gages à l'aristocratie, que ce soit Henri de Castries, que ce soit Marc Le Breil de la Charrière, que ce soit ensuite René Ricol et d'autres hommes très puissants. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, je peux classer François Fillon au cœur de l'oligarchie qui mène une guerre très dure contre les peuples, notamment par la destruction des services publics qui font vraiment partie du programme de François Fillon.
D'ailleurs, comment va-t-il pouvoir continuer sa campagne, continuer à demander aux Français de faire des efforts et des sacrifices après toute cette histoire, Monique Pinson-Charlot?
C'est une bonne question, parce que évidemment ça va être assez gênant, mais en même temps, si vous voulez, la plupart des médias sont la propriété de patrons du CAC 40, des amis, voire des clients de la société de conseil de François Fillon, et qui ne permettent pas aux Français de se rappeler des faits précédents. Là, les Français vont se dire, ça y est, le saint homme, le catholique qui instrumentalise d'ailleurs sa foi dans sa campagne présidentielle, ils vont retenir que ça. On sait que la réflexion est impossible dans les conditions de vie du Français moyen qui survit, qui a le nez sur le guidon. Il pense qu'à amener le gosse à l'école, pouvoir acheter du pain, faire ses courses. Enfin, je ne sais pas si vous voulez, il n'y a pas de prise de recul possible, sauf quand on invite des intellectuels pour justement se poser et réfléchir.
Mmh. Monique Pinson-Charlot. Depuis toutes ces années avec votre mari, que vous êtes spécialisée, vous menez presque une sorte de guerre contre la bourgeoisie traditionnelle française. Est-ce que parce que vous avez l'impression que derrière les manières polissées, derrière l'élégance de la forme, il y a une grande violence?
Ah, il y a une très grande violence. Hein. Nous avons écrit un livre sur la violence des riches. C'est une forme de délinquance en col blanc. Mais nous, si vous voulez, eux nous mènent la guerre. Mais nous ne menons pas la guerre contre eux avec Michel. Non, nous sommes contentés d'utiliser les outils de la sociologie, les salaires que nous offrait le CNRS pour faire de la recherche fondamentale, et donc dévoiler un mécanisme de classe de manière, si vous voulez, ethnographique, parce qu'on a partagé beaucoup de temps avec ces gens-là.
Vous en avez croqué.
Comme vous le savez. Et donc, si vous voulez, on est capable d'être dans leur tête tout le temps. Et ça, c'est un luxe, si vous voulez, qui n'est pas si partagé que ça en France.
Dans leur tête, sur leur terrain de golf, dans leur chasse à cour. Bravo, Monique Pinson-Charlot.
Oui, Monique, une des conséquences dramatiques de cette affaire, c'est que ça nourrit aussi le tous pourri de Marine Le Pen et que ça risque fort de lui profiter.
Alors, Marine Le Pen, d'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec cette formule, puisque moi, je vous parle du fonctionnement normalement marxiste d'une classe sociale mobilisée pour la défense de ses intérêts, dont Marine Le Pen fait partie. Alors, elle, c'est encore plus cracouille, puisque elle, c'est une dynastie familiale qui est faite parti politique. Ça ne s'est jamais produit dans notre pays. Et elle est là, et elle-même est poursuivie par la justice pour des emplois fictifs. Au cœur même du Front National, nous l'avons montré dans la réactualisation de sociologie de la bourgeoisie, il y a un nombre de nobles d'Ancien Régime tout à fait important aux commandes du Front National. Donc franchement, voilà, c'est pas... cette histoire de tous pourris, anti-système, même Macron, il est anti-système. système. C'est une façon de faire plaisir, de caresser le peuple dans le sens du poil, alors que le peuple, il préfère mille fois notre discours, qu'on leur explique exactement ce qui se passe, comment ce milieu-là fonctionne et comment il mène la classe dominante, l'oligarchie, mène une guerre sans merci contre les peuples, notamment, par exemple, en construisant, en ne payant plus ses impôts et en construisant artificiellement un déficit public qui, s'ils payaient leurs impôts, n'existerait tout simplement pas, de même que le trou de la sécurité sociale.
Monique Pinson-Charles, vous avez quand même dit « normalement marxiste », qui est un mot que j'ai pas...
C'est oui, non, vous avez bien entendu.
Dites-moi, vous avez quand même une petite tendresse pour une forme de vieille bourgeoisie traditionnelle désargentée qui répare quelques vieilles maisons à la campagne.
Alors ça, c'est votre problème, Edouard.
Non, je vous le demande à vous. Je vous le demande à vous. Est-ce que vous gardez une tendresse pour...
Non, parce que si vous voulez, c'est une classe sociale. Alors, c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité dans cette classe sociale.
Ah voilà,
c'est comme... Alors, je vous rassure, pour le pauvre noble qui n'a plus d'argent et qui répare lui-même son toit sous la pluie, dans le froid ou la neige, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe.
Non, mais il ne se plaint pas, mais vous l'aimez bien.
Il y a une association d'entraide de la noblesse française qui vient justement réparer un petit peu les inégalités de patrimoine pour que tous ceux qui sont issus notamment de la noblesse et de l'aristocratie française puissent continuer à faire profiter de leur capital symbolique, de leur richesse symbolique, de leur réseau d'adresses aux autres membres de la classe dominante. C'est une classe qui est profondément solidaire. C'est, si vous voulez, le collectivisme...
C'est pas un reproche, oui.
Le collectivisme, nous l'avons trouvé chez les dominants. Et la division, c'est au contraire la marque des classes moyennes et des classes populaires, mais elles n'en sont pas responsables, parce que cette division, elle est organisée, c'est une stratégie des patrons qui rachètent les grands médias pour précisément influer sur les dispositions, les pensées, les cerveaux des dominés.
Monique, vous avez la colère intacte, c'est votre côté Léo Ferré. Vous nous appelez d'où là? Vous êtes bien logé quand même? Vous avez une jolie...
Ah ben moi je ne suis pas à plein, moi bon. J'ai bien chaud, j'ai de l'électricité, tout va bien.
Merci chère Monique Pinson-Charlot.
Merci à vous deux.
Bonne journée.
Au revoir.
7h-9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi?
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
Ah, un drame technique? Non, c'est réparé?
Tout, j'avais cassé mon casque, qui a peu d'intérêt déjà pour moi, c'est pas passionnant, j'imagine pour les auditeurs. Alors François Rollin, vous n'êtes pas venu les mains vides, parce que dans votre grand facon de générosité, vous avez apporté un jeu. Je vais le mettre en attente.
D'accord.
Parce que pour donner le teasing, parce que là je suis avec Bouly Lanners qui vient d'avoir plein de prix. Les Magritte du cinéma en Belgique, c'est l'équivalent des César en France, des Oscars en Amérique et des Chang Fong pour le cinéma de Malaisie. Bouly,
bonjour Edouard.
Tu as eu 4 Magritte?
5.
5?
Ouais.
Ça ressemble à quoi un Magritte comme statue?
Ça ressemble à rien.
Bah, ce n'est pas un Magritte.
Voilà, ce n'est pas, en tout cas, ce n'est ni une pipe ni un chapeau boule, ça ressemble à rien. Mais c'est ça qui est bien.
Mais tu veux dire que tu es déjà en train de préparer l'idée que tu vas les mettre dans des endroits abandonnés de ton appartement?
Non, je me fais l'idée d'aller les rechercher parce que je les ai oubliés à la cérémonie.
Ah oui, effectivement, ça montre une sorte de détachement très beau. Tu es à Liège, là?
Ouais, je suis chez moi, ouais.
Alors, Les Premiers, Les Derniers, c'est un film magnifique qui va circuler à travers le monde. C'est beau, il va sortir dans combien de pays?
Oh, là, il a été vendu dans une trentaine de territoires, dont des territoires improbables, comme la Chine. Et...
Oui, ça, personne ne sait où c'est, ce truc-là. Oui.
Non.
Des pays qui n'existeront peut-être plus au moment où tu iras montrer le film?
C'est fort. Mais moi, je n'y vais pas. C'est trop dangereux. Je ne prends pas l'avion. Hein, moi,
c'est vrai que Bouly Lanners, c'est un comédien metteur en scène qui ne prend pas l'avion. Donc, il se débrouille pour arriver en train, même dans des tournages lointains. On avait tourné en Irlande. Tu avais réussi à ne pas prendre l'avion.
Oui.
Et ni le bateau,
du coup,
je crois.
Du coup, si, quand même, le bateau. Si. Quand même, un minimum de choses, oui. Si. Non, je prends le bateau, je prends le train, je prends le cheval.
Oui, alors ça t'aide moins pour les grandes traversées. Bouly, on a toujours l'impression qu'en Belgique, tout est plus bon enfant, sympathique, chaleureux. Est-ce que la cérémonie des Magritte, c'est beaucoup mieux que les Césars?
Ah non, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en Belgique, on a voulu singer un peu les Césars, qui eux-mêmes ont un peu recopié les Oscars. Sauf que c'est un territoire qui est vachement plus petit, puisque ce n'est que les prix que pour la moitié de la Belgique francophone. Oublie que la Belgique est un pays qui est un peu coupé en deux. Hein.
Alors on ne se rend pas compte, c'est vrai que le cinéma flamand et le cinéma wallon sont deux cinémas très différents.
Mais totalement différents parce que politiquement on a vraiment séparé le pays et culturellement aussi. Donc ce sont deux modules de production, c'est deux publics différents, c'est de la distribution différente. Et c'est des films qui traversent très mal les frontières linguistiques, c'est-à-dire que nous on voit très peu de films flamands et les flamands voient très peu de films francophones.
Tu veux dire que toi qui vis à Liège, donc qui est vraiment à quelques kilomètres de la Belgique flamande, tes films sont plus vus en France qu'en Flandre?
Ah oui, beaucoup plus. Notre marché, nous, c'est la France. La Flandre est un marché totalement moribond pour nous. On est, alors que j'habite à 15 km de la Flandre.
Mais Benoît Poelvoorde, il m'a dit la même chose, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il, à 10 km près, plus personne ne le reconnaît en Belgique.
Non, si Benoît veut avoir la paix, il va boire un café à Tongres, il fait 15 km et personne ne le connaît.
Qu'une affaire à Litch.
Pardon,
mais... Voilà, c'est bien, mais merci.
C'est Rolin qui...
avec l'accent.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour réconcilier un peu ces deux cinémas ou ces deux cultures, tu dirais, toi?
Bah, il faudrait qu'il y ait une volonté politique qui le fasse. Or, on est quand même dans une période où on est plutôt sur le refermement sur soi donc, et sur l'identitarisme. Donc, je pense que ça ne va pas se régler avant un moment.
Et toi, tu y contribues. Est-ce que tu apportes ta pierre, Bouly Lanners?
Bien sûr, puisque je collabore à des films flamands, des flamands collaborent à mes films, on arrive encore à avoir des petites coproductions avec la Flandre, et puis que culturellement, il reste des ponts, puisque mes amis sont flamands, donc, et que moi je viens de la peinture, et l'essentiel de ce que j'aime en peinture, c'est la peinture flamande, donc je m'approprie aussi une partie de cette culture flamande qui pour moi m'appartient.
Merci Bouly, j'espère qu'on a la chance de revoir les premiers, les derniers en France.
Bah, j'espère aussi.
À bientôt.
Merci, Edouard.
À bientôt, camarade. François Rollin, le jeu de François Rollin. Comment finir en beauté une émission? C'est grâce à vous, François.
Alors,
comment joue-t-on?
C'est pas tout à fait un jeu. J'avais envie de terminer cette émission sur une note festive. Et donc, je vous propose notre désormais traditionnelle dégustation de produits régionaux. Cette semaine, la région des Ardennes. Vous voyez qu'on n'est pas très loin de chez Bouly Lanners. Et pour débuter, je vous propose cette terrine de sanglier des Ardennes, que vous voyez ici déclinée en trois façons. Là, celle-ci est au poivre vert, ouais. Celle-ci est au girole, celle-ci au madère. Alors, je vous laisse les goûter. Une préférence, Christophe Ménet?
Oui, j'aime bien celle-là. Là.
Alors, au poivre vert, oui, c'est vrai qu'elle voilà. elle est assez relevée.
Elle est
autour de la table, fort, Thomas
hein. Girole pour moi, girole, oui. Sans hésitation.
Je ne sais pas, je n'arrive pas à les distinguer, tout me plaît.
Celle-ci, goûtez celle-ci, vous n'avez pas goûté au madère.
Ah, c'est ça, c'est un petit goût alcoolisé ouais. Qui est fin. Oui.
Bon, et puis alors, pour suivre, je vous propose une truite de la Semois avec sa compotée d'endives. Bon, alors la Semois, vous le savez, hein, c'est un affluent de la rive droite de la Meuse, hein, le grand fleuve qui traverse les Ardennes. Donc là, on va être sur quelque chose de très gourmand, vous voyez. Mais attends, faites attention, c'est très chaud. Hein. Avec la petite touche d'amertume que donnent les endives.
Ah oui, c'est ça que
alors,
je sens.
Hein.
Et c'est très
c'est
beau
fin.
En plus.
C'est fin. Hein
en plus d'être bon, c'est beau.
Oui, ça, c'est vrai qu'il faut insister, je crois que les auditeurs le sentaient.
Et bon, oh. Et
oh, bah oui, mais ça c'est la truite. Hein, c'est la truite de la semoie. Bon, et on ne devrait pas le dire, parce qu'évidemment, il faut le faire avec modération, mais pour accompagner tout ça, vous voyez ici une petite blonde Val-Dieu, c'est une bière d'abbaye qui est brassée à l'abbaye de Val-Dieu. Donc on est sur une bière légèrement trouble, vous voyez, regardez. Laissez les auditeurs, mais voilà. Mais très riche en parfum, hein. Et une bière raisonnable,
puisqu'elle
titre 6 degrés. Vous voyez.
Ah oui, on c'est vraiment une bière de soif.
Oui. Voilà. Et puis, je vous laisse ensuite emporter, puisque j'ai dans le panier, vous voyez, j'ai encore des tas d'autres produits du terroir.
Les dégustations de François Rollin, c'est vraiment un cadeau à l'auditeur. Jamais on n'était allé aussi loin dans le partage dans le monde ouais. De la radio. Merci François, continue à venir avec ces bons produits qui fleurbons là, la France du terroir.
Ouais.
À bientôt, merci. On a de la publicité?
Non.
Ah bon, tant mieux, donc on n'est pas en retard pour une fois pour les 30 Glorieuses, ce qui réchauffe l'atmosphère. Je n'aurai plus de punaise sur la chaise de mon bureau. Merci à tous, très bonne journée. Merci Anne, merci Armel, Eugénie, merci François, merci Thomas. Merci Christophe. Nous vous laissons maintenant avec la grande Marie Bonisseau. À demain.
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.